Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace où l'on parle météorites, impactisme, en compagnie de notre invité Alain Carion. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Alain Carion, collectionneur, négociant en minéraux et amoureux devant l'éternel des choses tombées du ciel. Et Alain Carion, il n'y a pas de chute d'objets en provenance du ciel sans qu'il y ait des traces. Et ces traces, ce sont des impacts, ce qu'on appelle l'impactisme. Alors, comment passe-t-on quand on est amoureux des cailloux célestes, qu'on les a cherchés, disséqués, échangés, qu'on a parlé de leur histoire, finalement, à une autre histoire qui est celle de l'histoire des relations entre la Terre et le ciel par l'impactisme?
Parce que il y a une... Il y a une belle histoire à raconter avec des roches qui ressemblent à de la bordure de trottoir et qui ont une histoire fantastique. On a la chance d'avoir en France un beau cratère d'impact météoritique qui s'appelle la structure de Rochechouart-Chassenon, qui est dans le Limousin, pas très loin de Limoges, qui fait 20 km de diamètre. L'événement s'est passé il y a 215 millions d'années, c'est il y a longtemps, donc on ne voit pas grand-chose, mais quand on sait lire... les roches, quand on sait comprendre les roches. Et ça, c'est une démarche assez récente, parce qu'en fait, si on prend les guides Michelin des années 1950-60, qui parlaient des roches de Rochechouart, qui étaient un peu bizarres, ils parlaient de roches d'origine volcanique. Et même à l'époque, les scientifiques pensaient que c'était des roches volcaniques. Alors maintenant, on sait que c'est pas du tout des roches volcaniques, on sait que c'est des roches qui ont été extrêmement choqué par un événement considérable, un météorite qui est tombé là il y a 215 millions d'années, qui a broyé la roche, il y a eu des éjectats, des retombées, etc. etc. Et alors, Rochechouart, ça a 20 km de diamètre, ça a été extrêmement bien étudié par le Crotte et Lambert, et on a 5 ou 6 brèches différentes, et on peut refaire l'historique complet avec les brèches au centre qui ont des bulles de gaz extrêmement avec des températures considérables, un peu plus loin c'est des brèches avec des côtés fluides un peu, puis à l'extérieur sur les bords on a tous les éjectats, c'est-à-dire les morceaux de roche. Alors une brèche d'impact, ça a pas les inclusions ne sont pas les bords arrondis, au contraire c'est quelque chose qui a été arraché, cassé bruyamment, donc tous les bords de ces brèches, les inclusions à l'intérieur sont des bords très très pointus, très tout ça c'est. Et quand on explique ça, ce qui s'est passé, il faut voir qu'à l'époque, donc, quand c'est tombé, c'est des millions de bombes d'Hiroshima à 500 km, 1000 km autour, toute la vie a disparu, c'est un phénomène considérable. Et puis l'impactisme, c'est quelque chose qui peut arriver n'importe quand, parce que on est maintenant, tous les scientifiques et les gens s'intéressent à regarder un petit peu les astéroïdes, etc. Mais il faut savoir, par exemple, que Meteor Crater dans l'Arizona, qui est aussi un cratère extrêmement intéressant et qui fait 1400 mètres de diamètre. L'objet incident faisait 70 mètres. Actuellement, on est en train de rechercher des objets d'un kilomètre. Mais 70 mètres de diamètre, ça fait un cratère de 20 fois plus grand, 1400 mètres. Et là aussi, la vie a été détruite à des dizaines de kilomètres autour. Donc, si ça se passait dans une région un peu peuplée, etc., ça pourrait faire des dégâts considérables. Et ça, ces petits objets de 70 mètres, il est bien évident qu'on ne sait pas les repérer, bien sûr.
Alors ça, c'est impressionnant. Quand on va aujourd'hui sur les traces des collisions en dehors de Meteor Crater, hein, parce que c'est une belle balade, Meteor Crater. D'abord, on va en Arizona, on va à Flagstaff et pas très très loin de Flagstaff, on a ce trou très impressionnant.
Sur un plateau triassique, c'est-à-dire une espèce de plateau qui est battu par les vents, là, qui semble complètement immuable. Les bords du cratère dépassent un tout petit peu. Le cratère est à 5 km de l'interstate là, qui passe, qui va de Flagstaff à Albuquerque. Et on le voit apparaître. Puis quand on arrive là-dessus, là, cette espèce de chose est complètement. L'endroit est complètement magique, complètement fantastique.
On trouve encore des bouts, hein, de la météorite.
Oui, mais ce n'est pas conseillé de les ramasser parce que c'est une propriété privée, et si vous faites prendre, vous confisquez votre matériel, et c'est un an de prison. C'est arrivé à un de mes petits copains, Mike Farmer, qui est un des grands chasseurs de météorites. Il y a eu procès, il n'a pas fait un an de prison, mais il a eu des gros problèmes. Non, c'est pas conseillé de s'arrêter de ramasser des bouts de cailloux, mais il en reste, bien sûr.
On gagne à coup sûr une combinaison orange.
Oui. On va ramasser des papiers sur le bord de l'autoroute.
Pour revenir en France, qu'est-ce que l'on voit quand on va justement voir cette trace d'impact?
Alors, si on va à Rochechouart, il faut commencer par aller dans le musée qui s'appelle l'Espace Paul Pelas, qui est à Rochechouart, qui est rue Parvis à Rochechouart. Il y a un très beau musée Très beau musée parce qu'il est très explicite avec toutes les fameuses brèches dont je parlais tout à l'heure, différentes, ce que c'est que l'impactisme, etc. Et après ça, vous pouvez aller visiter les... Vous avez des cartes qui vous renseignent sur les différents endroits. Alors, il y a parfois, mais pas toujours, mais je pense que ça marche l'été, des étudiants peuvent vous emmener en particulier à Champagnac. Il y a une carrière, on voit carrément le fond du cratère. C'est-à-dire que c'est une carrière qui exploite la roche pour faire du remblai de route. Et on voit le fond du cratère de l'époque qui est là, qui est dans un plan de coupe qu'ils n'ont pas touché. Enfin, ils ont exploité ailleurs, ils ont laissé ça comme ça en place. Sinon, après, on peut aussi aller trouver à la carrière de Montoum. Mais là aussi, il faut être emmené par des gens. C'est-à-dire que l'accès n'est pas libre comme ça. Il faut donc... La première démarche, si on veut aller du côté de Rochechouart, c'est d'aller donc au musée et après de voir avec ces gens.
Et est-ce qu'en regardant les maisons, en regardant les églises,
bien sûr,
et la composition des pierres,
Quand vous êtes dans Rochechouart, si vous regardez le dallage de la ville de Rochechouart, il est fait avec de multiples brèches. L'église est fabriquée dans ces brèches. Les sarcophages de l'époque étaient fabriqués dans ces brèches, en particulier les thermes de Chassenon qui sont tout à côté de Rochechouart sont fabriqués dans une brèche. La brèche d'impact, donc c'est des roches qui ont été broyées, qui sont parties un petit peu en altitude, qui sont retombées comme ça, et ça fait une espèce de roche un peu poreuse, etc. Et pour conserver les corps, pour faire des sarcophages, c'était absolument fantastique, c'est-à-dire que les corps se conservaient extraordinairement bien là-dedans. On a la même chose en Allemagne. Les Allemands ont aussi un beau cratère d'impact qui est un cratère double là-bas, c'est dans Dingenries. Il y a un cratère qui fait 20 km de diamètre comme chez nous, il est beaucoup plus récent, il a 17 millions d'années. Et il y a un petit cratère à côté qui s'appelle Steinheim. 17 millions d'années, ça veut dire que l'érosion géologique de 115 millions, nous, c'est vraiment, on voit plus grand chose, à part à Champagnac, le fond du cratère. Vraiment, les roches ont gardé la mémoire, et quand on sait, on comprend ça, mais là, ça s'arrête. Alors qu'à Nordlingen, si vous montez à l'église de Nordlingen, qui elle aussi est fabriquée avec la roche, ce qu'on appelle la suévite, la brèche locale là-bas, qui est complètement, si vous montez sur le clocher de Nordlingen, qui est à peu près au centre de l'impact, vous voyez le tour, si vous voulez, du cratère, donc de 20 km. Vous arrivez encore à voir le tour. Et à côté, il y a un autre petit cratère qui fait 2 km de diamètre qui s'appelle Steinheim, parce que c'était deux événements, enfin, c'est concomitant, enfin, c'est-à-dire c'est un bolide qui était cassé en deux parties, donc qui a donné ces deux cratères. Et puis ce qui est intéressant pour Nordlingenries, c'est qu'à ce cratère de Nordlingenries, qui se trouve au sud de Stuttgart, donc en Allemagne, sont associés les tétites de Tchécoslovaquie, les qu'on appelle les Moldavites. Et lorsqu'on a daté ces Moldavites, les Moldavites, c'est du verre qui est de couleur verte, verte bouteille un peu, qu'on a trouvé dans les forêts du sud de la Tchécoslovaquie. Et quand on a daté ces tectites, on s'est rendu compte que c'était exactement le même âge que le... Et c'est de là qu'on a compris ce qu'étaient les tectites, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, quelques nanosecondes avant que la météorite touche le sol, elle comprime, parce que évidemment, un cratère de 20 km, c'est fait par un objet d'un kilomètre de diamètre. Donc, un kilomètre de diamètre, l'atmosphère n'est plus du tout un obstacle. Ça traverse l'atmosphère comme du beurre, littéralement. Mais la couche d'air, les 170 km de couche d'air, elle les compresse et ça donne une espèce de plasma. Et quelques nanosecondes avant d'arriver, de toucher le sol, cette espèce de plasma vitrifie la roche terrestre qui s'en va en jet comme ça. Et si elle a assez d'énergie, elle peut partir du système solaire et peut-être donner une météorite terrestre trouvée sur la Lune. Peut-être qu'un jour on trouvera un morceau de Terre sur la Lune. Mais il y a d'autres morceaux qui sont repiégés par l'attraction terrestre et qui vont retomber ailleurs. Et en particulier pour le Nordlingenries, ces objets terrestres donc vitrifiés, sont redescendus au sud de la... On les retrouve maintenant au sud de la Tchécoslovaquie.
Alors on les appelle les Moldavites.
On les appelle les Moldavites.
On appelle ça aussi, j'ai pu en voir souvent dans des expositions, des vers libyques. Ça veut dire qu'en Libye, il y a eu aussi ce type de collision.
Alors vers libyques, c'est une impactite, c'est tectite. Comme je vous disais, il y a eu deux points de fusion, c'est-à-dire quand c'est parti et quand c'est redescendu, ça c'est une tectite. Et c'est différencié du point d'impact. Une impactite, ça se passe à peu près où l'événement s'est passé. Les vers libyques, c'est une impactite, et là... alors ça a été le verre libyque pendant très longtemps, bon, c'est du verre, c'est 98% de silice et 2% d'alumine. Tout ça, c'est des choses assez récentes, en fait, qui ont moins de 10 ans. En fait, là, et on retombe sur quelqu'un que j'aime bien, qui s'appelle Jean-Alex Barra, qui a mis un point final pour les Verts Libiques, parce que c'est vraiment une publication de Jean-Alex Barra et de Roquea qui a mis un point sur la formation des Verts Libiques en disant que c'était bien une météorite qui avait fabriqué ça. Mais c'est une météorite qui est arrivée à cet endroit-là et qui a vitrifié le sol. Barra n'avait pas donné l'hypothèse, mais c'est un Américain qui est Wasson, qui est celui qui s'occupe, qui est un grand spécialiste de météorites ferreuses, mais tous les gens ont toujours tous ces scientifiques n'ont pas qu'un dada, ils s'intéressent un peu à tout ce qui se passe. Donc Wasson est l'homme, si vous trouvez un fer quelque part, la météorite de Mondieu par exemple qui a été trouvée dans les années 90 a encore été analysée par Wasson parce que c'était celui qui à l'époque analysait tous les fers. Maintenant ça évolue, même en France on a des gens qui sont capables d'analyser les fers, de faire la publication. Mais Wasson est un monsieur qu'on place dans spécialiste de météorites ferreuses, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à des tas de choses, en particulier au ver libique, et c'est lui qui a émis l'hypothèse qui est, moi qui suis un scientifique, mais entre guillemets, parce que je ne fais plus rien depuis bien longtemps, mais il y a des théories qui me plaisent bien, et la théorie de Wasson me plaît, et il prétend que c'est comme la Tunguska. La Tunguska, c'est 1908, au fin fond de la Sibérie, une immense une boule de feu qu'on reçoit les tremblements jusqu'à chez nous, on sait qu'il s'est passé quelque chose, il faudra attendre 10 ans après pour que une expédition russe aille voir sur place, toute la forêt est couchée, mais on n'a jamais retrouvé la météorite incidente. Et la Tunguska, on pense que c'est une météorite qui a explosé à 10 km d'altitude. Et bien pareil pour les vers libiques, Wasson a été le premier à émettre l'hypothèse que c'était une chondrite de faible densité comme la Tunguska qui avait explosé en 10-15 km d'altitude et qui avait vitrifié carrément. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'à ce moment-là, les énergies mises en jeu, c'est des énergies de milliers de bombes atomiques. Donc les souffles de chaleur sont absolus. C'est de millions de degrés qu'il aurait vitrifié le sable en place. Et la zone des vers libiques et donc se passe. Alors c'est dans le désert libique, mais la partie égyptienne du désert libique, parce que le désert libique c'est la Libye, l'Égypte et le Soudan. La partie égyptienne du désert libique, ça fait 50 km sur 30 et c'est dans des couloirs interdunaires comme ça, et on retrouve ça à la surface du sol.
On peut encore, Alain Carion, trouver des impacts aujourd'hui. Vous êtes parti, je crois, en Égypte avec Philippe Payou du CNRS, justement, pour rechercher des champs de cratères d'impact. Voilà. Ça veut dire qu'on ne les a pas vus, ça veut dire qu'on continue à les découvrir, ce qui est assez incroyable.
Oui, alors il faut savoir que l'impactisme est quelque chose qui est une science qui est relativement... Il y a encore 15-20 ans, on parlait d'impactomania, et l'impactisme est quelque chose qui n'a jamais plu, en fait, dans le domaine... C'est un peu une connotation... On n'aime pas le catastrophisme. Et si on admet l'impactisme, on admet le catastrophisme dans l'évolution de la vie. Et
ça, on admet que la vie peut être bouleversée par...
Oui, qu'il peut se passer des choses. Je parlais tout à l'heure d'un astéroïde de 70 mètres de diamètre qui tombe sur la région parisienne. Je peux vous dire qu'il ne restera pas grand-chose. Donc ça peut se passer et personne ne peut le prévoir pour l'instant. Il s'en faut. Et Philippe Payou est un scientifique qui s'occupe de radars. Il avait embarqué ses radars sur des satellites japonais. Le radar a l'avantage de voir un petit peu ce qui se passe sous la surface de la Terre, c'est-à-dire qu'on voit la lie des rivières, on voit les structures d'impact, effectivement beaucoup mieux. Et là, il a repéré au sud de l'Égypte une structure qui lui semblait fantastique parce que le nombre d'impacts se chiffre en milliers de cratères.
En milliers
Donc,
de cratères.
Milliers de cratères. Donc, il a monté une expédition pour aller sur place. Et il m'a demandé si je, en tant que spécialiste météorite, si je pouvais venir avec lui. Parce qu'évidemment, quand on parle de cratères d'impact, si on veut savoir si les cratères sont d'origine météoritique, la voie royale, c'est de trouver des météorites autour. Donc j'ai fait partie des bagages de Philippe Payou. Malheureusement, j'ai pas servi à grand-chose, puisque je n'ai pas trouvé une seule météorite. Mais depuis, il a fait... Deux expéditions sur place. La première, j'ai donc fait partie de la première expédition avec lui. La deuxième, je n'étais pas. Et maintenant, on a plus ou moins une notion de la date. C'est de l'ordre de 20 millions d'années. 20 millions d'années, c'est trop. Les météorites auraient été complètement détruites. Donc, je pense que je ne peux pas trouver. Par contre, Philippe Payou a fait des échantillonnages sur une trentaine de cratères, à peu près 35 ou 40 cratères. Il a trouvé des brèches d'impact, ce qui est déjà une chose intéressante, avec justement ces bords, enfin le mot anglais vient, mais bords sharp, comme on dit en anglais, mais très, très, très anguleux, etc. Ça, c'est une excellente preuve qu'il s'est passé. Ce n'est pas une brèche d'origine alluvionnaire, mais c'est vraiment une brèche d'un événement violent. Il a trouvé des shatter cones. Les shatter cones, c'est là aussi, c'est Dietz, un Américain, qui avait montré que lorsque dans un cratère on trouve des shatter cones, on est sûr d'être en présence d'un cratère d'origine météoritique. Alors ça, c'était vrai il y a 20-30 ans. Maintenant, on discute en disant que les shatter cones qu'a trouvé Paillou, c'est peut-être des structures éoliennes. Il faut voir que Paillou, comme je disais, est un scientifique qui s'occupe de radar et il s'immisce dans un milieu de minéralogistes et de météoriticiens. Et comme en science, les choses sont extrêmement cloisonnées et qu'on n'aime pas bien voir les intrusions, donc ça reste effectivement, il reste passablement controversé. Aux dernières réunions, enfin, à Ciel et Espace, aux fameuses rencontres du Ciel et de l'Espace en novembre, j'ai donc fait une conférence sur l'impactisme. Et avant de faire cette conférence sur les cratères d'impact de la vidéo, je lui ai téléphoné en lui disant « Mais qu'est-ce que je dis ?» etc., etc. Même si moi, je suis intimement convaincu, il m'a dit « Pour l'instant, personne ne m'a apporté la preuve du contraire de ce que j'avance. » C'est ce qui est complètement vrai. Donc, il a trouvé des brèches d'impact avec des inclusions qui sont... Il a trouvé des shatter cones. On peut discuter des shatter cones. Il a trouvé des PF, c'est-à-dire des PF, c'est lorsqu'on fait des lames minces à l'intérieur des quartz, on voit des structures tout à fait caractéristiques. Et là, les PF, c'est des planars déformations, c'est-à-dire que ça ne se trouve qu'avec des pressions qui sont bien supérieures au volcanisme, etc. Et on n'a pas d'explication. Mais alors, un des arguments, c'est qu'il n'a échantillonné que sur 30 cratères sur 1000, ce qui est quand même peu. Et puis là aussi, on avait avec nous Essam Eugi, qui était un scientifique égyptien, qui travaillait à la NASA et qui promenait un radar au sol pour faire des plans au sol, parfois dans les cratères. Et un des arguments de Philippe Paillou, qui est effectivement assez fort et que là je pense qu'on peut difficilement discuter maintenant, c'est que toutes les structures, toutes les courbes d'enregistrement qu'il a fait de ces radars montrent des cuvettes parfaitement lisses. Si c'était du volcanisme, on devrait retrouver des cheminées de remontée magmatique, ce qui n'est absolument dans tout. Alors évidemment, on a fait des coupes que sur une dizaine ou une vingtaine de cratères par rapport aux 1000, ça ne peut pas. Alors que le lieu est peut-être, il y a eu un mixage de volcanisme et d'impactisme, mais je pense qu'on ne peut pas évacuer complètement son histoire. Et c'est intéressant de voir. Alors maintenant, il faut expliquer le gros problème, et il en est parfaitement conscient, c'est qu'il faut expliquer quel est l'objet qui a pu créer, quel est l'objet incident dans l'espace. Alors on sait qu'on connaît des astéroïdes qui sont liés gravitationnellement les uns avec les autres, mais il faut imaginer des choses qui aient pu créer 1000 cratères comme ça, dont les plus grands font 3 km de diamètre quand même. Donc c'est quand même... Bon, ça reste avec plein de questionnements, mais c'est une très belle histoire et pour moi, ça reste un très beau souvenir.
Et quand on va dans un musée à Alain Carrion et qu'on voit, alors vous parliez des dinosaures, mais on peut aussi voir des trilobites, on peut aussi voir de la faune et de la flore d'époque aujourd'hui disparue. Est-ce que vous avez tendance naturellement à associer disparitions?
C'est toujours pour ça que je répète que l'impactisme est le phénomène le plus important de tout l'univers, en fait, et qu'il y a eu 5 extinctions majeures sur Terre. La plus connue étant bien sûr la Crétacé tertiaire qui aurait vu la disparition des dinosaures. Même si les dinosaures, on peut toujours continuer à discuter qu'ils étaient malades, qu'ils étaient en fin de vie, que c'était, ils avaient un virus, que mais il s'est passé il y a 65 millions d'années un phénomène mondial. On retrouve la couche catée, c'est-à-dire la couche des sédiments qui marquent la jonction Crétacé-Tertiaire, et dans cette couche, et ça c'est Rocchia qui l'a montré, qui travaillait au CEA, donc aux environs de Paris là, qui l'a montré. Alors on avait déjà trouvé des microtectites dedans, on avait trouvé de la suie, on avait trouvé de l'iridium bien sûr, c'était Alvarez, c'était la première hypothèse, mais Rocchia a montré quelque chose d'extraordinaire. On a trouvé des magnétites nickelifères, et ces magnétites nickelifères, en fait c'est la peau de la météorite lorsqu'elle a traversé l'atmosphère, c'est-à-dire le fer et le nickel de la météorite qui sont oxydés, parce que le fer et le nickel dans l'espace il n'est pas oxydé, mais il s'oxyde en traversant l'atmosphère terrestre, et ces magnétites nickelifères, on les retrouve tout autour de la Terre. Donc il y a bien eu une météorite, ça personne ne discute plus qu'une météorite est bien tombée il y a 65 millions d'années. C'est un phénomène planétaire parce que la couche cratée maintenant, il y a plus. Ça a commencé par Stephen Klein au Danemark, puis en Italie, Kubio en Italie, puis on en a trouvé à Hendaye de côté dans le sud de la France. Enfin, on en a trouvé. Maintenant, on a plus de 100 endroits différents où on a retrouvé de la couche cratée toujours avec ces mêmes caractéristiques. Donc le phénomène a été complètement planétaire. Il est bien évident que ça a été un phénomène complètement monstrueux. Il y a un livre de Frankel qui s'appelle La mort des dinosaures, l'hypothèse cosmique, qui reste pour moi le livre le plus plaisant sur la question. Enfin, absolument.
Simplement pour vous, on n'aime pas nécessairement, c'est aussi une question de mode, trop parler de catastrophisme, l'impactisme qui modèle totalement l'histoire
oui,
de la vie
puis,
sur Terre.
Et puis on parle, c'est vrai que c'est un petit peu une connotation un peu religieuse. Le côté, les gens aiment bien l'évolution classique, normale, logique. Enfin bon.
Là, c'est méchant et brutal.
Mais oui, mais le Crétacé tertiaire, c'est une extinction grave, mais le Permien-Trias, c'est bien pire. 95% des espèces à ce moment-là, le Permien-Trias, c'était il y a un peu plus longtemps, il y a 300 millions d'années. Ça, 95% des espèces ont disparu. Il suffit de le voir dans les couches géologiques. Là, on ne discute pas. Enfin, on ne peut pas discuter.
Il reste des lieux à prospecter, ou en tout cas des sites d'impactisme à découvrir encore.
Bien sûr. Le monde est vaste. Tout reste à faire. C'est comme en art. Tout reste à faire. Heureusement, d'ailleurs. Non, il y a plein de choses encore à faire. Plein de choses. Première chose à faire, c'est de... Il y a un champ de tektite qui s'étend du sud de la Chine jusqu'à l'Australie. Les tektites se trouvent par dizaines de tonnes. Elles ont toutes un âge commun, c'est soit 700 000 ans, donc c'est pas très... Et on n'a toujours pas retrouvé le cratère parent. On pense qu'il est à la lumière, aux confins de la Thaïlande, on pense, mais pour l'instant, on n'a toujours pas retrouvé le cratère parent qui correspond à cet événement-là. Donc oui, il reste plein de choses à faire. Et puis, de l'impactisme, on retrouve, il y a d'abord les cratères d'impact, pour que les cratères soient placés en impactisme. Il y a à Azuara en Espagne, il y a un cratère dans le nord de l'Espagne, à certains moments il est placé en cratère d'impact, on dit non, etc., etc. Donc il reste plein de choses à faire pour les jeunes générations. Il y avait un jeune qui travaille au muséum à Paris, mais il n'a pas réussi à avoir de poste sur ce sujet. Il est parti en Autriche. Les Autrichiens sont extrêmement forts et extrêmement branchés sur le domaine. Mais le monde est vaste. On vit dans un monde ouvert, hein, en science. Faut pas être franco-français.
Bon, on en profitera pour signaler, je crois, le domaine du météore qui est...
Un vin dans la région de Faugère. On a un cratère d'origine météoritique en France qui est Rochechouart. Il y a un deuxième cratère Cabrerolles, qu'on pensait être d'origine météoritique. Alors, on va pas être méchant, mais bon, il y avait quelqu'un du BRGM qui prétendait avoir trouvé des Shattercone, mais comme ce monsieur ne veut pas montrer les objets qu'il a trouvés, donc je considère que tout scientifique qui ne veut pas montrer les objets qu'il trouve, ça correspond pas à grand chose. Il y en avait d'autres, il y a des Allemands qui ont fait la même chose, enfin bon, passons. Mais bon, donc, pour l'instant, Cabrerolles, pour moi, n'est à preuve du contraire, n'est toujours pas un cratère d'origine météoritique, mais ça n'empêche que comme ça fait on pense que c'est une doline, c'est-à-dire que c'est, malgré que ce soit en terrain primaire, il y a des terrains calcaires en dessous qui se sont effondrés un petit peu comme dans le Jura. Ça s'est effondré, donc ça fait une espèce de cavité circulaire. Et donc, de 200 mètres de diamètre, il y a une vigne là-dedans. Et Madame Coste, élève du vin, qui s'appelle le domaine du météore, qui est un faugeur, qui est maintenant des vins qu'on aime bien, etc., etc.
Farpètement. Merci Alain Carion. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain épisode.